Bonjour à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Le compositeur, pianiste et organiste Jean-Charles Gandrille, qui vient de publier un CD avec ses quatre trios pour piano, violon et violoncelle, sous le label Parati, dans la collection Disco Vert avec le concours de la fondation du festival d'Auvers-sur-Oise. Et la musicologue Sylvie Brély, directrice et fondatrice de la Nouvelle Athènes, centre des pianos romantiques, qui nous invite à commémorer les 200 ans de la naissance du compositeur post-romantique allemand Karl Reinecke, du 20 au 22 novembre à Paris, avec une journée d'études et plusieurs concerts passionnants. Bonjour Jean-Charles Gandrille.
Bonjour Christophe.
Ravi de vous accueillir dans le studio de IDFM Radio. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez étudié le piano au CRR de Versailles, puis l'orgue au CRR de Paris et de Saint-Maur. Vous complétez votre formation au CNSM de Paris. Vous remportez pas moins de 6 prix. Orchestration, harmonie, improvisation à l'orgue, analyse, contrepoint et fugue et forme. Vous avez la chance d'étudier avec le grand compositeur français Jean-Louis Florence. Entre 18 et 20 ans, vous remportez 3 concours internationaux d'improvisation à l'orgue et vous recevez divers prix internationaux pour vos compositions. En 2015, vous êtes le compositeur invité du festival d'Auvers-sur-Oise par son directeur fondateur Pascal Escande, où une dizaine de vos compositions seront jouées, et notamment par un certain Renaud Capuçon. Vous avez reçu plusieurs commandes de l'Orchestre Philharmonique du Qatar, un concerto pour violon, un double concerto pour piano, orgue et orchestre, qui ont fait l'objet d'un CD sorti sous le label Parati. Vous avez également reçu des commandes de Notre-Dame de Paris, un Magnificat qui a fait l'objet d'un CD paru chez Warner Classics. En avril 2019, votre Stabat Mater est la dernière polyphonie chantée à Notre-Dame de Paris, la veille de l'incendie. En 2023, vous obtenez le premier prix du 10e concours international de musique sacrée de Madrid. En 2024, vous remportez le prix spécial du second concours international de composition en Arménie. Ajoutons que vous êtes titulaire des orgues de l'église Saint-Lubin de Rambouillet et de l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise. Et cette année, Jean-Charles Gandrille, vous publiez ce très beau disque comprenant vos 4 trios pour piano, violon et violoncelle sous le label Parati dans la série Disco Vert de la Fondation du Festival d'Auvers-sur-Oise. Dans quelles circonstances avez-vous décidé d'enregistrer ce disque, Jean-Charles ?
Alors, en fait, il faut se prendre en main souvent quand on est compositeur parce que il faut aller de l'avant et se motiver pour essayer de faire connaître son œuvre. C'est pas toujours que les gens vont venir vers vous et vont vous solliciter. Il faut y croire et il faut prendre des initiatives. Et j'avoue que le premier disque chez Parati était donc consacré à mes œuvres d'orchestre, les commandes du Qatar. Et j'ai pas eu beaucoup de visibilité, de retombées. Et ça m'a un petit peu presque découragé, mais voilà, c'était en 2015, si je me trompe pas aussi. Et je me suis dit, mais le disque, c'est quand même quelque chose d'important dans notre milieu de la musique classique. Alors peut-être les gens écoutent aussi plus maintenant sur des smartphones, des tablettes, etc. Mais les disques ont encore leur actualité et il y a encore des collectionneurs et des gens qui aiment le support matériel. Et voilà, j'ai eu envie de sortir un nouveau disque et aussi de prendre toutes les mesures possibles que je pouvais pour que ça fasse connaître vraiment mon travail et que ça débouche sur des gens qui me suivent, qui apprécient ma musique, qui soient touchés aussi. Je veux, parce que mon but c'est de toucher les gens dans leur cœur, dans leurs âmes. Et voilà, donc j'ai eu envie de faire ce disque et l'idée de faire des trios m'est apparue vraiment la bonne source, la bonne optique, puisque je n'avais déjà composé 3 et l'idée m'est venue d'en rajouter un 4e pour en vue du disque. Voilà, voilà.
Où avez-vous rencontré vos deux partenaires, David Galoustoff, le violoniste, et Grégoire Corniliouk, le violoncelliste?
Alors, David Galoustoff, je l'ai rencontré à Paris. J'étais encore étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Porte de Pantin. Et lui avait fini depuis quelques années. Et on était à peu près de la même génération. Mais bon, on s'est rencontrés par hasard. On avait été tous les deux demandés par des jeunes fiancés pour jouer pour leur mariage, justement dans ma région où j'habite, près de Rambouillet. Et ça a été une rencontre déterminante parce que j'ai vu que c'était un immense violoniste qui nous bouleverse par son vibrato, par son jeu, doté d'une grande maîtrise, et très quelqu'un de très sympathique, très humain, très très humble. Et on s'est pas entre guillemets quitté depuis parce que on a beaucoup fait de concerts ensemble, piano, violon, orgue et violon. On constitue un duo maintenant de violon et orgue, où on joue mes transcriptions des 4 saisons de Vivaldi notamment. Et voilà, j'ai toujours eu du bonheur à écrire pour lui, j'ai beaucoup composé pour lui. Et j'espère un jour lui écrire un concerto.
Ah, très bien, mais nous l'attendons.
Oui, oui, oui. Et pour Grégoire Corniliouk, c'est grâce à David Galoustoff que je l'ai rencontré. C'est un immense violoncelliste aussi, et il a été notamment le créateur, là, c'est-à-dire le premier interprète de mon premier trio qui débute le disque. Et c'était une rencontre formidable aussi. J'ai eu envie que ce soit lui qui joue sur ce disque pour le mettre en valeur, qui est aussi Grégoire est un immense violoncelliste aussi.
Eh bien, c'est une transition, puisqu'on va écouter tout de suite le nostalgique premier mouvement de votre trio numéro 1, opus 31. Vous êtes au piano, Jean-Charles Gandrille, avec vos deux partenaires du trio, David Galoustoff, violon, et Grégoire Corniliouk, violoncelle. C'était la musique de notre invité Jean-Charles Gandry sur IDFM Radio, premier mouvement du trio numéro 1. Votre musique, Jean-Charles, cherche à toucher par les émotions, comme certaines musiques de films savent le faire, dans la continuité des grands compositeurs du passé. Au XXe siècle, il y a eu Korngold, Bernard Herrmann, Nino Rota, Ennio Morricone, Michel Legrand, et aujourd'hui, John Williams.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la musique qui nous touche le plus est passée des salles de concert presque aux salles de cinéma, en fait. Et il y a eu beaucoup, bon, peut-être les auditeurs le savent pas, la création contemporaine artistique a peu à peu dévié dans des concepts presque intellectuels, la musique qui se disait même musique savante. Donc ça fait un peu peur. Et on a privilégié l'intellectuel, la dissonance, une recherche d'originalité, qui peut-être c'était les conséquences des deux conflits mondiaux. On cherchait moins peut-être le beau et on cherchait des voies différentes. Mais finalement, c'est une musique qui a perdu un peu des auditeurs le film est apparu, le cinéma est apparu, et les compositeurs se sont inspirés, des musiques du passé, hein, notamment du 19e siècle. Et c'est vrai que moi je vois en ces compositeurs de musique de film des continuateurs de grands mélodistes du 19e siècle. Il y a vraiment des grands artisans, des grands mélodistes, et moi je pense notamment souvent au thème de la liste de Schindler, un chef-d'œuvre de Spielberg. La musique est de John Williams, et vraiment l'inspiration mélodique est telle que ça équivaut au grand chef-d'œuvre de Tchaïkovski du 19e siècle, pardon. Et je pense, moi personnellement, pour la composition me concernant, je veux renouer avec ce courant, et j'espère que les gens qui aiment la musique de film se retrouveront dans ma musique, qui peut-être a une dimension plus de construction, de narration, en plus de ça, du côté mélodique, parce que évidemment la musique de film se plie à des contraintes des scènes, etc. Il y a moins de créativité au niveau de la construction, de la dramaturgie. La musique est là pour illustrer les images, mais n'empêche que c'est une musique souvent de qualité pour les plus grands, hein, les plus grands compositeurs de musique de film.
Alors, votre style se rapproche parfois de la musique des minimalistes américains, dans le style de Steve Reich, Phil Glass ou John Adams. Et vous parlez, en caractérisant votre style de musique, de minimalisme raisonné. De quoi s'agit-il exactement, Jean-Charles ?
Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas peut-être ces termes, le terme plus approprié pour comprendre cette musique, c'est musique répétitive. Parce que on met des concepts sur le son, sur les musiques. On parle de minimalisme. Alors, minimalisme, ça veut dire minimum, hein, ça exprime en fait une musique qui répète des courts motifs, des petites cellules mélodiques qui sont répétées. Et cette musique est apparue au XXe siècle et a été une source de rafraîchissement dans cet univers contemporain où on avait beaucoup de dissonances, de choses complexes. Et ça a fait un bien fou et ça a renouvelé un petit peu les esthétiques. C'était très original. Mais pour moi, il faut que j'en tire les conséquences, c'est-à-dire tout ce qui est du passé, on peut se l'approprier ou en atténuer certains aspects qui nous correspondent moins ou qu'on trouve peut-être moins intéressants. Et dans ces musiques répétitives, il y a une fraîcheur et un dynamisme très positif. Il y a des belles idées de cellules mélodiques, d'harmonie. Mais bon, je vais peut-être blesser certains compositeurs qui aiment ces compositeurs, Philippe Glass, tout ça. Il y a quand même un excès à outrance de répétition un peu facile. Et on s'en rend compte quand on en écoute beaucoup, c'est le copier-coller, le fameux copier-coller qu'on a dans l'informatique. Il y a peut-être là un abus de ça, une facilité où il faudrait peut-être que les compositeurs écrivent moins et trouvent d'autres idées. Mais là, encore, je ne veux pas blesser les compositeurs qui j'écoute cette musique, il y a des très belles choses. Mais moi, me concernant, je tire les conséquences de ces courants par le dynamisme et par un peu de répétition, mais ce que je dirais, un peu de parcimonie. Parce que pour moi, les évolutions sont trop lentes, les transformations, et il y a un côté un peu facile de composer très très vite ces choses-là. Voilà. Donc, minimalisme raisonné, ça peut paraître complexe. En fait, c'est les apports de la musique répétitive, mais avec parcimonie. Voilà.
Très bien. Eh bien, à côté de la nostalgie, on va maintenant passer un peu au groove, au rythme. Et je pense en particulier au second mouvement de ce même trio numéro 1, opus 31, dont on a entendu tout à l'heure le premier mouvement. C'était le second mouvement du premier trio opus 31 de notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, le compositeur, pianiste et organiste Jean-Charles Gandry, extrait de son nouveau disque sorti sous le label Parati dans la série Disco Vert. Alors dans ce mouvement, effectivement, nos auditeurs ont constaté qu'on n'était plus dans la nostalgie, c'est une musique qui était chargée de groove.
Oui, c'est ça, j'aime bien appeler ces mouvements... dynamique que je fais donc un petit peu en opposition avec le premier extrait qu'on a entendu, c'est cet aspect de la danse, cet aspect du dynamisme, c'est très commun à notre humanité, hein. Depuis la nuit des temps, les gens ont dansé, et moi je fais souvent référence à un chef-d'œuvre qui n'a pas pris une ride de la musique classique, c'est les quatre saisons de Vivaldi, dont on célèbre à peu près en ce moment le 300e anniversaire de l'écriture. Et c'est un chef-d'œuvre qui dépasse toutes les frontières. Beaucoup de gens écoutent ce chef-d'œuvre, même s'ils connaissent pas le reste de la musique classique. Et je dois dire que quand on regarde les statistiques des musiques les plus écoutées sur la planète, qu'est-ce qu'on a ? La pop musique et peut-être après la techno. Des musiques qui, bon, on s'attend peut-être côté un peu simpliste, légèrement pauvre en harmonie, en mélodie, mais pourquoi les gens écoutent ça ? Parce que c'est très dansant. Et ça, c'est un aspect positif qu'il faudrait retrouver, enfin moi que je veux retrouver dans mes compositions pour toucher le plus de générations, et parce que c'est un élément peut-être qu'on a laissé de côté dans les musiques depuis un siècle, les créations contemporaines de musique classique, mais qui a eu lieu dans la musique baroque, chez Vivaldi notamment, et voilà cet aspect... on a souvent envie de dodeliner de la tête quand on entend ces musiques-là qui nous font du bien par ce dynamisme, par cette danse. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a aussi le jazz, enfin une certaine forme de jazz, peut-être plus traditionnelle. Et non, je ne veux pas parler du free jazz, qui est dont les morceaux étaient quand même assez répétitifs et parfois un peu longs et quand même un peu fatigants à écouter, si je peux dire.
Oui, oui. Alors, je suis pas spécialiste de jazz, mais j'aime beaucoup, notamment le trio de Cat Jarrett.
Bien sûr.
Pour d'autres, peut-être d'autres aspects, c'est-à-dire que je pense notamment à la finesse et à la subtilité qui ont en commun ça avec la musique classique. On écoute le toucher de Cat Jarrett au piano, mais c'est d'une délicatesse, d'une finesse, comme les plus grands interprètes de Chopin, des Nocturnes.
Il est lui-même interprète de Bach, d'ailleurs.
Oui, il a joué, il a enregistré de la musique classique. Et même au niveau de la batterie, dans ce trio de jazz de Cat Jarrett, c'est jamais la batterie qu'on entend dans la pop, tout ça. C'est toujours, il y a toujours un côté très fin dans les percussions qui me plaît beaucoup. Alors après, que ça fasse un dynamisme et que ce soit joyeux, c'est important aussi, mais cette finesse, on aurait besoin de la retrouver aussi dans les créations contemporaines.
Et puis, en 2016, à l'occasion d'un voyage en Pologne, vous avez visité, pendant l'hiver, le camp d'extermination d'Auschwitz. Comme tous les visiteurs, vous en êtes sortis bouleversés et vous avez conçu votre troisième trio.
Oui, alors, donc, j'étais pas venu spécifiquement pour visiter ce camp. J'étais pour un mariage de famille d'une cousine avec un Polonais. Et je sais plus si c'était prévu d'avance ou on nous l'a proposé lors du séjour. Peut-être c'était prévu, je ne sais plus. Mais on nous avait proposé pendant le séjour de visiter Auschwitz. Et j'avais dit oui parce que j'avais pas peur de visiter ces lieux. Je voulais visiter pour un devoir de mémoire, en fait, parce que c'est une des plus grandes tragédies du XXe siècle, la déportation, tous ces meurtres d'innocents. Et pour un devoir de mémoire, je voulais visiter les lieux. Et effectivement, ça m'a vraiment bouleversé et ça m'a beaucoup apporté, notamment sur cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, je voulais vraiment aller sur place, voir tout ça. Et finalement, malgré moi, en revenant en France, j'avais ce désir de, comment on peut dire, on peut appeler ça une catharsis. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais on peut dire de exutoire aussi, c'est-à-dire de confier à la composition, à ma musique, ce que j'avais ressenti sur place, pour un peu. Voilà, pour extirper ça de mon être et alors pas, c'est pas une musique qui doit nous, comment dire, faire revivre les atrocités qui ont lieu, c'est vraiment rendre hommage à ses victimes et il y a de l'espoir dans cette musique, il y a de l'espoir.
Eh bien, écoutons le second mouvement de votre trio numéro 3, Auschwitz Impressions.
Thank you.
très belle et émouvante partition, Auschwitz Impressions, second mouvement du trio numéro 3, opus 57 de notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, le compositeur Jean-Charles Gandry, était au piano avec David Galoustov, violon, et Grégoire Corniliouk, violoncelle, extrait de votre CD qui sort sous le label Parati. Dans votre trio numéro 4, opus 85, qui est beaucoup plus récent, qui est de 2021-2022, il y a pour moi une double influence de Ravel et de la musique répétitive américaine. Est-ce aussi votre avis, Jean-Charles Gandry?
Alors, c'est vous qui m'avez dit ça pour la première fois, que vous ressentiez des...
Hors micro,
oui. Des similitudes, oui, avec le trio de Ravel. Et je dois dire que... C'est une musique qui, Ravel et Debussy, ces compositeurs du début du XXe siècle, c'est une musique avec laquelle je sens une filiation parce que, je sais pas, c'est les racines françaises, c'est mon pays, et c'est des compositeurs que j'admire particulièrement. Et, alors ce dont on parlait tout à l'heure, le côté minimaliste, donc la répétition mais avec parcimonie, c'est aussi quelque chose que j'ai constaté qui est facile pour les gens qui ne sont pas habitués à la musique classique. J'ai vraiment constaté ça, c'est une facilité d'approche avec un peu de répétition qui aide beaucoup des gens, et je souhaite vraiment de plus en plus et depuis longtemps de toucher le plus de gens possible intergénérationnel. Alors l'utopie, ce serait de toucher comme la beauté d'un coucher de soleil qui est assez universel, ou des cimes enneigées. Je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas j'ai des grands retours sur ce disque, notamment de ma boulangère, qui ne connaît pas la musique classique, qui l'écoute beaucoup, la vendeuse de mon bureau, de mon magasin de papeterie bureautique, qui m'a dit l'écouter en boucle dans sa voiture, voilà, ma voisine femme de ménage, mon voisin pompier. Et ça, c'est très positif. C'est ce que je recherche. Et ça me fait plaisir. Et notamment, que le son des sons vraiment authentique d'un violoniste qui nous émeut, d'un violoncelliste. Je crois qu'il y a encore des choses à dire et que la musique électronique n'aura jamais cette humanité qu'on trouve chez les grands instrumentistes à cordes, violonistes et violoncellistes.
Mais votre disque, en effet, est tout à fait accessible, mais c'est de la musique savante, mais je dirais, mais très accessible en même temps. Voilà, on peut dire les choses.
Voilà, alors, le mot savant, peut-être ça peut faire peur. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est simplement une musique qui va avoir une construction comme un film, et comme aussi parfois un conte ou la littérature. Il y a une construction, donc on mène le discours. C'est juste ça qui change. Mais le contenu émotionnel peut toucher n'importe qui. C'est simplement qu'il y a une narration et une construction avec des épisodes différents, comme on raconterait l'histoire d'un film sans image, en fait, puisque la musique de film se cale sur des scènes et un petit peu tronquée, un petit peu obligée de s'incruster dans un schéma d'image. Et là, la liberté est totale dans ma création, c'est-à-dire je fais une construction, et c'est ça le côté savant, mais qui ne peut peut-être pas s'appeler savant, mais c'est juste un concept d'architecture, mais qui...
Voilà,
qui
c'est peut mieux, être, en
voilà,
effet.
Voilà.
Excusez-moi, ce terme était peut-être un peu excessif, en tout cas dans mon esprit, mais je voulais dire que ça sortait tout de même de la pure simplicité de la pop, comme on évoquait tout à l'heure.
C'est ça. Après, il y a une recherche de trouver des mélodies qui, j'espère, resteront, qui toucheront. Peut-être au-delà de cette pop musique dont j'ai tiré les conséquences, mais qui a souvent des mélodies sur quelques notes qui sont peut-être un tout petit peu fades, mais encore une fois, il faut retenir l'essentiel de cette musique, c'est la dynamique.
Écoutons le premier mouvement de votre trio numéro 4, Jean-Charles Gandry. Thank you. premier mouvement du trio numéro 4 de notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, le compositeur organiste et pianiste, qui était lui-même au piano avec David Galoustov, violon, et Grégoire Corneliuk, violoncelle, c'était un extrait d'un très beau disque sorti sous le label Parati dans la série Disco Vert avec le concours de la Fondation Festival d'Auvers-sur-Oise. Avez-vous des dates de concert, Jean-Charles Gandry?
Alors, en tant que compositeur, j'ai une première, donc, c'est ce soir.
Oui, déjà.
Voilà, à Vannes. Donc, il s'agit d'une commande du conservatoire de Vannes, donc, qui aura lieu en première ce soir à 18h, pour quintette à cordes et orgue, petit orgue positif. Donc, avec les professeurs du conservatoire. Et ça s'appelle Seconde Fantaisie. Donc voilà, il faut découvrir je sais pas s'il y a des gens qui pourront se vendre à Vannes, mais pour les prochaines dates aussi, j'ai aussi alors c'est le 9 décembre à Paris à 18h 18h30, j'ai un petit doute, mais c'est marqué sur mon site internet. Là j'ai créé un recueil de morceaux d'orgue pour les premières années qui s'adresse autant aux jeunes qu'aux plus anciens, des morceaux qui se veulent très mélodiques et avec les débuts du pédalier, c'est-à-dire quelques notes au pied mais très faciles. C'était l'objet de la commande, de trouver de composer des morceaux avec quelques notes de pied pour s'initier à ce pédalier, donc les pieds qui jouent des notes. Et une date la même semaine, c'est le 14 décembre, samedi 14 décembre.
Une date importante.
Voilà, à 10h30, j'aurai ma contribution à l'inauguration de Notre-Dame de Paris, la cathédrale, où une messe que j'ai composée en partie sera interprétée lors d'un office dans une liturgie à 10h30, donc à Notre-Dame. Ça s'appelle la messe au Sacrum Convivium. Donc il y aura les deux parties qui s'intitulent le Kyrie et l'Agnus Dei, et en plus une reprise d'un motet qu'on appelle motet de communion, qui s'appelle justement Au Sacrum Convivium. Voilà, il y aura ces trois morceaux, et donc la messe, donc le Kyrie et l'Agnus Dei, sont une commande que j'ai reçue de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Donc je suis ravi de tout ça.
Est-ce qu'il y aura un disque peut-être?
Alors, ce n'est pas prévu. Peut-être on peut supposer qu'il y aura une retransmission à la radio, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que cette messe sera donnée plus tard en concert, probablement la saison prochaine, 2025-2026.
Eh bien, on en parlera ici sur IDFM Radio, Jean-Charles Gandry.
Merci
beaucoup, Jean-Charles Gandry. Très bonne journée et très bon concert.
Merci, Christophe. À bientôt.
À bientôt.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Bonjour, Sylvie Brély.
Bonjour.
Vous êtes directrice et fondatrice de la Nouvelle Athènes, centre des pianos romantiques, et vous organisez le festival Reinecke 200 ans pour commémorer le bicentenaire de la naissance de Karl Reinecke, compositeur post-romantique allemand, qui était aussi un virtuose du piano. C'est un musicien un peu oublié aujourd'hui, alors qu'il était très en vogue au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. Il a très bien connu Schumann, Mendelssohn, Liszt et Brahms, qui l'ont quelque peu éclipsé, n'est-ce pas, Sylvie Brély?
Oui, c'est merci de nous inviter pour présenter ce festival qui va avoir lieu à Paris les 20, 21 et 22 novembre. Et effectivement, c'est au sein de la Nouvelle Athènes, nous avons une collégialité et une équipe de jeunes musiciens chercheurs qui sont essentiellement basés à Vienne et à Bâle et qui s'intéressent justement aux témoignages justement que Reinecke peut permettre d'offrir, puisqu'il est né en 1824 et il est mort en 1910. Et il a été un des premiers, des derniers romantiques à enregistrer sur des pianos mécaniques. Et donc l'intérêt de notre festival, c'est de nous faire entendre comment Reinecke jouait justement ce répertoire, puisqu'il se percevait comme un conservateur, un épigone romantique, complètement différent de Liszt qui se voyait comme l'homme de la musique du futur. Voilà.
Le festival va débuter le mercredi 20 novembre par une journée d'études de 10h à 18h avec la présentation de l'œuvre de Reinecke et une analyse des interprétations à partir de ces rouleaux qui ont été enregistrés à la fin de sa vie.
Voilà, exactement. Et donc là, c'est une journée qui aura lieu 78 rue de Rome à Paris, dans le 8e.
Très facile d'accès, c'est au métro Rome sur la ligne 2.
Voilà, exactement. Donc c'est une journée, bon, je veux pas effrayer les auditeurs, ce sera tout de même en anglais parce que cette recherche s'effectue en anglais. Et nous allons justement pouvoir écouter ces rouleaux et voir ce qu'on peut tirer de ces rouleaux. Et donc cette journée est organisée par ce musicien chercheur qui s'appelle Sébastien Bausch, qui est à la fois, là vous avez accueilli un compositeur organiste et pianiste, et donc qui est un pianiste organiste également, claveciniste, et qui justement s'intéresse à l'histoire du jeu, et donc qui vient de l'université de Vienne, de Berne, pardon, et donc il a prévu trois parties dans cette journée d'études. Une partie autour de Reinecke, le pianiste. Donc, on va écouter ses rouleaux et réfléchir aussi sur la réception de ces rouleaux avec d'autres intervenants, dont un spécialiste qui a enregistré sa prestation depuis l'Australie, qui s'appelle Neil Perez da Costa. Nous allons faire toute une partie sur le rôle de Reinecke lorsqu'il était à Leipzig. Il était professeur au conservatoire de Leipzig. Donc avec aussi un autre grand spécialiste qui s'appelle Kai Kupp et qui va nous parler justement de la tradition Reinecke, comment il s'est opposé au wagnérisme. Et puis en dernière partie, on va écouter des mélodrames écrits par Reinecke. Et une partie d'un trio pour cor, clarinette et piano de Reinecke.
Alors nous allons écouter un exemple d'une pièce légère de Beethoven, les variations écossaises, dans l'interprétation de Karl Reinecke. C'était Karl Reinecke lui-même, au début du XXe siècle, qui a enregistré ces variations écossaises de Ludwig van Beethoven. Et le jeudi 21 novembre, il y aura à la fois un atelier et le soir un concert, Sylvie Brély.
Oui, alors nous sommes très heureux de ce partenariat avec le Conservatoire régional à rayonnement régional de Paris qui accueille justement une des participantes de cette journée de recherche qui s'appelle Emily Worthington, qui est clarinettiste et qui travaille justement sur un contemporain de Reinecke qui s'appelle Karl Berman. Et elle et Kai Kupp vont faire travailler les étudiants du CRR des classes de musique ancienne autour de ces deux compositeurs. Donc c'est ouvert au public, vous pouvez assister. Et le soir à 20h à l'église allemande, nous allons faire un concert très original proposé par Sébastien Bausch, qui va être une joute, un duel imaginaire.
Ah, comme on faisait beaucoup au 19e siècle.
Exactement, ouais, on connaît Beethoven contre Hummel. Et là, ce serait Reinecke contre Franz Liszt. Sébastien Bausch va incarner Reinecke et une pianiste chercheuse, une ancienne élève de Pierre-Laurent Aimard va incarner Liszt. Et ils vont travailler sur Beethoven, alors la pathétique selon Reinecke et la Hammerklavier selon Liszt.
Un monument.
Voilà, deux monuments. Ensuite, du Mozart, des transcriptions faites par Reinecke du concerto du couronnement et des transcriptions faites par Liszt du Requiem de Mozart. Et enfin, une pièce de Reinecke. Donc, et le public sera invité à voter à main levée de quelle vision musicale il préfère.
Où se trouve l'église allemande?
Alors, elle se trouve dans le 9e arrondissement, 25 rue Blanche. Donc, c'est pas très loin de la Trinité, en fait.
La gare Saint-Lazare.
De la gare Saint-Lazare, de la rue Mogador.
Oui.
Voilà, de la chaussée d'Antin.
Très facile d'accès, c'est très central.
Voilà.
On va écouter une œuvre très centrale, justement, au 19e siècle, la sonate opus 28, dite pastorale de Beethoven, par Karl Reinecke. Ludwig van Beethoven, un extrait de la sonate pastorale opus 28, Landante, par le pianiste-compositeur Karl Reinecke, qui nous a quittés en 1910, Sylvie Brély tout de même.
Oui, qui nous a quittés en 1910 et que Sébastien Bausch, qui fait sa thèse sur Karl Reinecke, s'attache à faire revivre, puisqu'il a utilisé ici un rouleau mécanique Hupfel, qui il explique, vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site de la Nouvelle Athènes.net. Il explique que ces rouleaux permettaient de bien identifier tout ce qui est de l'ordre du rythme et donc de la capacité à faire du rubato, à arpéger différents accords, mais pas les dynamiques. Et donc lui, Sébastien Balch, a reconstitué à partir d'écrits, des méthodes de piano qu'a écrit Karl Reinecke quand il était au conservatoire de Leipzig, une réinterprétation avec les dynamiques.
Vendredi 22 novembre à 20h, Reinecke and Friends.
Yes.
Avec l'ensemble Fanny Davies.
Oui. Alors là, c'est l'autre, c'est un peu la clôture avec justement l'œuvre dont on va écouter un extrait du trio pour clarinette, cor et piano qui va être présenté dans un arrangement clarinette, violoncelle et piano par donc l'ensemble de Laura Granero, qui est une des membres fondatrices de la Nouvelle Athènes, qui est très très impliquée dans cette recherche et qui avec Emily Worthington va vous faire aussi entendre Karl Berman et des pièces de Robert Schumann.
Alors justement, de Robert Schumann, on va entendre Laura Granero dans un extrait des Davidsbündler Tänze. La pianiste Laura Granero interprétait un extrait des Davidsbündler Tänze de Robert Schumann, une pièce qu'elle jouera sans doute, Sylvie Brelli.
Oui, plutôt elle va jouer avec clarinette ce soir-là. Mais vous pouvez retrouver cette pièce également sur une des vidéos de la Nouvelle Athènes. Et donc, ce sera donc notre concert de clôture de notre festival Reinecke à l'église allemande, le 22 novembre, à 20h, 25 rue Blanche.
Alors, comment peut-on réserver des places, Sylvie Brelli?
Alors, vous êtes invité à réserver sur notre site internet, qui est www.lanouvelleathènes.net, ou bien vous pouvez les acheter sur place le jour même.
Alors, vous avez dit, Sylvie Brelli, qu'il y aurait ce trio de Karl Reinecke, un trio opus 274, donc on voit que ce compositeur a été très prolixe.
Absolument. Et donc, on sent dans cette musique tout le côté romantique, ces arpégiations, ce flux musical qui caractérise, je trouve, pas mal Karl Reinecke.
Nous allons écouter le premier mouvement du trio opus 274 de Karl Reinecke, par quel musicien, Sylvie Brelli?
Donc par un trio polonais qui a enregistré ce trio en 2015 à Katowice, en Pologne. Et donc le clarinettiste Widaszek, le corniste Tomasz Wielski et la pianiste Joanna Domanska.
Bravo.
Bonne écoute.
Thank you. Nous venons d'écouter le début du premier mouvement du trio de Karl Reinecke pour piano, clarinette et corps. Merci Sylvie Brelli. C'est une œuvre qui sera interprétée, il n'y aura pas de corps d'ailleurs, le 22 novembre prochain à l'église luthérienne de Paris. Il y aura un violoncelle, mais ce sera un concert magnifique que j'invite tous nos auditeurs, évidemment, à aller écouter ce 22 novembre. Merci beaucoup Sylvie Brelli.
Merci beaucoup Christophe Gravereau.
Bonne journée et très bon festival.
Merci.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle balade musicale demain dimanche à 11h. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Merci à Francky à la technique et restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.